Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Sortons la tête de l'eau, le podcast qui vous emmène à la rencontre des experts métiers de l'eau et du paysage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Menu, technico-commercial chez Hydralliance, qui va nous parler de l'adaptation du jardin au changement climatique. Bonjour Anthony et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous parler des grands changements climatiques que l'on observe et les effets sur les jardins ?
Alors, bonjour Carole. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ce podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir discuter du changement climatique et de l'impact finalement de ce changement sur les jardins, en effet, et sur le paysage de manière générale. Alors, le changement climatique, la première chose à comprendre, c'est que c'est vraiment un enjeu majeur finalement qui est mondial et qui aura un impact non seulement sur notre environnement, mais aussi sur l'ensemble de nos pratiques, sur un peu tout le futur en fait que l'on connaîtra, nous et surtout les générations futures. Pas plus tard qu'hier, le nouveau rapport du GIEC est sorti où il y a une projection à plus ou moins 30 ans. Et on parle entre autres de 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici ces 30 années. Donc déjà par rapport à ça, on se rend bien compte de l'impact que peut avoir le changement climatique. Et plus particulièrement donc, sur le sujet qui nous intéresse, le jardin, le changement climatique va avoir un impact colossal à la fois sur les consommations d'eau et aussi sur notre patrimoine végétal. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai travaillé sur un dossier dans la Dombes. Donc, c'est la première région piscicole de France. Donc c'est la région piscicole, il faut entendre par là une région d'étang, et en fait dans laquelle aujourd'hui on avait une production de poissons, donc toute l'économie locale dépendait de cette pisciculture. Et en étudiant cette région là, je me rendais compte que finalement il y avait à peu près 30% du patrimoine arborés, donc de toutes les forêts, là je parle vraiment d'un grand territoire, qui sont amenés à disparaître parce qu'ils ne vont pas pouvoir suivre en fait la vitesse du changement climatique. Pour comprendre ce phénomène-là, il faut imaginer que le changement climatique se réchauffe de manière graduelle finalement au fur et à mesure qu'on remonte par rapport à l'équateur. Et en fait, la vitesse de croissance de la température est telle que le végétal qui d'habitude suit l'évolution du climat, là, n'a pas la capacité de s'adapter par lui-même. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, déjà nous, on voit un peu où je veux en venir, je pense, à travers ça, c'est qu'on doit insuffler cette dynamique et pouvoir, en fait, aider le végétal à s'adapter pour que la partie du patrimoine végétal soit capable de tenir face au changement climatique, soit conservée, mais que finalement, on arrive à conserver la qualité du biotope, etc., en intégrant de nouveaux végétaux.
Alors, comment on s'adapte, justement ?
Alors, dans des plus petits jardins, donc ça veut dire quand on va avoir, par exemple, nos plans de plantation, notre projet végétal, il faut simplement sélectionner les végétaux en fonction des tendances climatiques qu'on va avoir sur un territoire. J'ai beaucoup travaillé dans la région lyonnaise et en travaillant là autour, si vous voulez, les différents projets que je pouvais avoir, donc là, je parle vraiment de la région lyonnaise, hein, selon en fait la situation géographique du projet, je pouvais avoir un climat en devenir qui allait être le climat toscan, donc autour de Sienne, par là-bas à travers. À 1 km de là, je pouvais avoir un climat portugais en devenir. Et puis, quand je parle de Lyon intramuros, on imagine un climat proche de celui d'Alger. Donc, on voit un peu comme ça les variations de climat qu'on peut avoir finalement à une échelle un peu réduite. Et donc, l'idée, c'est pour chaque projet, avoir cette capacité de dire « ok ». Donc, toujours en se basant sur des données scientifiques, celles du GIEC, entre autres, de dire ben « là, a priori, on va avoir une augmentation plutôt vers la fin du siècle, parce que le végétal, on va au-delà de la temporalité humaine, d'une vie humaine. Le végétal est beaucoup plus pérenne. Donc, finalement, à la fin du siècle, quel climat on va avoir ? Et là, on voit cette augmentation de température qui va être de plus 2 à plus 4 degrés selon les régions. Donc, par rapport à ça, concrètement, demain, quel serait notre climat dans tel ou tel point géographique ? Donc ça, une fois qu'on a cette donnée-là, il nous suffit finalement d'adapter notre végétal en tenant compte du patrimoine végétal de la zone géographique à laquelle le climat actuel correspond. Donc, typiquement, par exemple, quand on va sur un territoire, je dis n'importe quoi, la région de Coimbra, donc au Portugal. Aujourd'hui, c'est beaucoup de forêts d'eucalyptus ou une zone un peu océanique. Donc, en fait, le végétal est complètement différent de ce qu'on peut avoir. Et pour autant, on va trouver des végétaux qui sont un peu plus logiques, comme le chêne du Portugal, ce genre de choses-là, qui finalement, en fait, sont pas si loin du patrimoine végétal existant et qui seront adaptés pour le coup au climat futur. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième enjeu, donc si je sors du cadre végétal, je dirais qu'il est sur l'eau, la gestion de l'eau. Et là, pour le coup, avec Hydralliance, c'est vraiment là où on apporte notre plus-value aujourd'hui et notre réflexion. L'idée, c'est que chaque goutte d'eau soit utilisée à bon escient. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, déjà, c'est que dans un jardin, tout du moins, si on adapte bien notre patrimoine végétal et les végétaux qui seront plantés, théoriquement, ça veut dire qu'il n'y aura pas ou peu besoin de l'arrosage. Donc déjà, il va y avoir une première économie d'eau qui va être colossale, juste parce qu'on aura pensé finalement le végétal en fonction de ça. Ensuite, on a plein de possibilités aujourd'hui, plein de technologies qui font qu'on est capable de récupérer les eaux pluviales, par exemple, donc dans des cuves, des citernes, où on va finalement stocker nos eaux pluviales. Et plutôt qu'elles soient rejetées directement à la rivière et inexploitées, ben, cette eau-là, on va pouvoir la réutiliser dans notre jardin, ou même dans les sanitaires, dans les machines à laver, ce genre de choses. Après encore, donc je passe encore à une étape suivante, on a beaucoup de technologies aujourd'hui qui nous permettent de vraiment être au plus efficace possible. Des choses toutes simples, par exemple sur la programmation d'arrosage automatique. Aujourd'hui, on a des programmateurs qui sont capables de savoir s'il a plu ou pas. De tenir compte de la force du vent pour savoir si on va asperger ou pas, de tenir compte même de l'humidité du sol pour ne pas en fait arroser inutilement. En fait, toutes ces consommations en fait qui sont liées aux conditions météorologiques du jour et qui aujourd'hui en fait on n'en tenait pas compte. Tout ça amenait à une surconsommation d'eau dans les piscines aussi. Là, pour le coup, au-delà de l'eau, des choses comme ça, on a vraiment aujourd'hui des technologies qui sont extrêmement poussées et qui font qu'on a des économies d'énergie et d'eau qui sont absolument colossales, même en produits chimiques. Chaque gramme de chlore est utilisé à bon escient et n'est pas surconsommé parce que, en fait, humainement, on a paramétré tant de doses d'alimentation toutes les heures, etc. Alors que ça tient pas du tout compte en fait de la consommation de la piscine. Donc voilà, c'est toutes des réflexions. Pareil, on est capable de mettre des pompes à vitesse variable qui font qu'on divise quasiment jusqu'à par 8 la consommation d'électricité. Donc tout ça, en fait, pour moi, c'est une façon de s'adapter au changement climatique et surtout de limiter notre impact personnel sur l'environnement et qui amène cette transition au fur et à mesure vers un jardin, je dirais, résilient.
Donc, si on résume, il faut apporter les bons végétaux et une irrigation optimale de ceux-ci.
C'est ça. Et qui passe donc vraiment par... La vraie réflexion, elle est en amont du projet. Pour moi, c'est dès l'amorce du projet, dès l'émergence de l'idée, c'est concrètement... Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aura demain? Et comment on fait en sorte que demain, on soit le plus écologique, entre guillemets, possible?
Merci Anthony.
Avec plaisir, avec plaisir.
C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Sortons la tête de l'eau. Merci à Anthony Menu d'avoir accepté de partager avec nous son savoir et ses précieux conseils. Merci pour cette générosité. Chers auditeurs, si vous avez des commentaires bienveillants et constructifs ou des idées de sujets pour de nouveaux podcasts, partagez-les sur l'adresse communauté@hydralliance.com. Et si vous souhaitez écouter nos autres épisodes, consultez notre page communauté.hydralliance.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortons la tête de l'eau.